Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonsoir à tous et merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International en cette heure tardive pour nous, mais sans doute assez peu tardive pour beaucoup de nos auditeurs et surtout pour tous ceux qui ont assisté au match de Ligue des Champions ce soir. Avantage, Liverpool, vainqueur de Villarreal ce soir, donc dans son stade d'Anfield, 2-0. Une avance suffisante ou pas pour le match retour dans la chaude enceinte de la Serra Mica en Espagne, dans le sud de l'Espagne. Retour sur cette rencontre et maintenant ou d'ici peu dans Radio Foot International avec nos visiteurs du soir. Bonsoir David Lortolari.
Bonsoir Annie, bonsoir à tous. Je représente Jürgen Klopp officiellement ou...
On peut dire ça.
Allez,
on peut dire ça.
Ça marche.
Bonsoir Chérif Guémour.
Bonsoir Annie, bonsoir à toutes et à tous.
L'amoureux des choix tactiques des entraîneurs et dont nous parlerons. Un club français est toujours en Coupe d'Europe. Encore un, l'OM en demi-finale de la Ligue Europa Conférence. Demain soir aux Pays-Bas face à Feyenoord, où les Marseillais tenteront de préserver leur chance de disputer une sixième finale européenne. Deux fédérations contre-attaque après les propos de Jamel Belmadi, la fédération gambienne et la FECA Foot camerounaise s'insurge contre les propos tenus par le sélectionneur algérien contre l'arbitre gambien de la rencontre Algérie-Cameroun, bien sûr, et qui laisse croire qu'il y aurait eu un complot contre les Fenech. Pierre Guérin m'a aidé à préparer l'émission avec Malo Steiner. Laurent Salerno est à la réalisation. Radio Foot, c'est parti.
Here is Henderson, the cross comes in, and it's in! Liverpool with a goal! 8 minutes into the second half, and Jordan Henderson wheels away in delight. His cross took a deflection over the outstretched Rooney, and Liverpool now 1-0 up. Salah able to turn, edge of the penalty area, Salah nicks it through, Mane! Second goal for Liverpool!
Alors malgré les commentaires enflammés de nos camarades de la BBC, c'est vrai que ce soir on est peut-être quand même un peu retombé sur terre à Anfield après le spectacle extraordinaire offert à Manchester hier soir par les Citizens et les Merengues de Madrid. Revenu à un match, on est passé peut-être de l'extraordinaire à l'ordinaire, sans être méchante. Une demi-finale plus prévisible, assez déséquilibrée, en tout cas sur le papier et finalement sur le terrain. Est-ce qu'on peut résumer ainsi cette rencontre, David Lortolari, Liverpool à l'offensive et Villarreal arc-bouté devant son but?
Oui, c'était quand même très classique. On a compris dès les premiers instants, dès les premières actions. Voilà, même avec la caméra télé qui écrase un peu les 22 acteurs du match. Mais il y a un petit paradoxe ce soir peut-être, c'est que Liverpool a plié l'affaire en quelques minutes, mais par le biais d'occasions un tout petit peu chanceuses pour arriver au but à la fin. Alors on peut accumuler les occasions si on reprend le fil du match, etc. Liverpool dominateur, Liverpool aurait pu marquer plusieurs buts. Tout ça est vrai. Villarreal globalement recroquevillé. On s'est demandé en seconde période si on allait enfin voir un contre-tranchant de Villarreal avec cette espèce d'éclair qui nous restait à l'esprit, Annie, du quart de finale précédent. Mais il n'y a pas guerre de suspense, il n'y a pas d'équilibre entre les forces des deux côtés. Et Liverpool largement devant. 2-0, un score quasi idéal quand même.
C'est le match auquel vous vous attendiez, Chérif Guémour ?
Le premier ex aequo de la Première Ligue contre le septième de la Liga, ça pouvait donner que ça.
On peut penser, et je pense que David Lortolari en est témoin, que le premier de la Bundesliga qui vient d'aligner 10 titres cette équipe de Villarreal, et pourtant ça n'a pas été le cas. Est-ce que peut-être qu'au bout d'un moment ça s'essouffle quand même?
Non, mais Villarreal, ils sont pas là par hasard. Mais non, non. Ils ont pas grand chose à offrir. Ils se sont qualifiés, au mérite contre le Bayern. Ils n'ont pas surclassé le Bayern. Le Bayern a été était supérieur, pas
ça
énormément supérieur. Mais là, quand c'est, je répète, c'est le premier ex aequo de la Première Ligue. Ok, d'accord, ils ont un point de retard sur Manchester City, mais c'est pratiquement au même niveau. C'est une machine qui vous écrase, qui vous presse, qui vous compresse, qui vous épuise, qui vous pousse à la faute. Et je suis un peu d'accord avec ce que tu disais, David. C'est pas des buts clairs. Le premier, bon, c'est pratiquement un CSC sur un centre. Mais c'est parce qu'on vous pousse à reculer sans cesse, à transbahuter le bloc d'avant en arrière, de droite à gauche, de vous compresser, de vous faire courir. Et ouais, au bout d'un moment, bah, on a une seconde de retard, on a un petit peu moins d'énergie. Et contre Liverpool, d'ailleurs, ils ont plié l'affaire en quoi, en 3 minutes.
Oui.
Donc, les deux buts viennent à 55e, 57e minute.
Voilà, ça c'est la force de la Première Ligue. Et puis cette équipe de Liverpool, c'est une machine de guerre. Donc Villarreal a tenu, mais...
Mais a fini par craquer.
Ils ont fini par craquer.
Chérif, est-ce qu'on peut dire, et je demanderai la même chose à David Lortolari, est-ce que ce score de 2-0 reflète la grande domination des Reds?
Oui, parce qu'en fait, ils n'ont pas non plus
énormément d'occasions. C'est pas facile de leur marquer des buts, hein, Villarreal.
Voilà,
et la première
mi-temps, Villarreal a plutôt bien tenu. Moi, j'étais... Sur la première mi-temps, il y avait 0-0, mais ce n'était pas un scandale. On ne peut pas se dire qu'ils ont eu de la chance. Non, ils sont restés concentrés, ils ont fait très peu de fautes. Sauf qu'il y a des choses qu'on ne voit pas, que la télé ne montre pas. C'est la fatigue, la pression et le poids psychologique qu'une équipe qui subit de telle sorte... on sent, enfin c'est ce qu'on dit à la mi-temps entre nous, hein, jusqu'à quand ils vont tenir, à partir de quel moment ils vont craquer, et ça, on n'a pas attendu longtemps.
Mm-hmm. David Lortolari.
Il aurait pu avoir un score plus ample peut-être si Villarreal s'était jeté à l'abordage.
Il y a eu deux buts refusés pour hors-jeu. Hein,
À la toute fin, il y a une scène. Qui est probablement assez révélatrice de ce que Unai Emery espère hypothétiquement pour le retour. C'est que, alors qu'il y avait un dernier coup franc à proximité du but de Liverpool à 25-30 mètres, un peu excentré, une possibilité donc d'envoyer un ballon pour une situation compliquée dans la surface pour défendre pour Liverpool, Unai Emery a hurlé 8, 10, 12 fois à l'un de ses joueurs, je crois que c'était Albiol, de bien rester en retrait. C'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas pour lui, même en étant mené 2-0 à l'extérieur sur un match aller, d'envoyer toutes ses forces vers le camp adverse, d'envoyer son gardien dans la surface pour essayer de faire un surnombre quelconque. Donc, quelque part, si Villarreal s'est contenté de ce 0-2 aussi, bien contraint, c'est peut-être aussi que on a continué de se recroqueviller jusqu'au bout, et puis que Liverpool, à sa main, a considéré que c'était suffisant. Était-on plus près du 3-0 que du 2-1? Je crois qu'on était quand même plus près du 3-0.
Mmh. Ce qu'on a finalement, Villarreal quand même s'est jeté à l'abordage, si on peut dire ça d'un sous-marin, mais s'est jeté à l'abordage dans toute la toute fin de match, David. Hein.
Ouais.
Ils ont essayé.
Oui, on a vu quelques ballons sur les côtés, un peu essayer de trouver un peu de vitesse, essayer de trouver un peu de fraîcheur. Mais on avait compris. Après, c'est facile d'analyser après coup, mais Vous occultez un peu la première période parce que c'était 0-0 et Villarreal avait tenu, comme le disait Chérif, mais on pouvait quand même déjà sentir l'inéluctable un peu. On avait vu, je crois que la belle frappe sur le poteau de Thiago Alcantara, c'est en première période, à la fin de la première période, des choses comme ça qui étaient quand même des indices forts. Voilà, et à partir du moment où Chérif constate que cette équipe concasse l'adversaire, 90 minutes, 1h30, c'est très très long, même si Annie. Jürgen Klopp n'avait fait que 3 changements au match aller, pardon, au coup d'envoi par rapport au match précédent des Reds, et qu'on a constaté en seconde période, il a fait des changements aussi très tardifs dans le dernier quart d'heure. Donc il y a du coffre, il y a de la réserve dans cette équipe de Liverpool. On a en tout cas cette impression.
Pour en venir sempiternellement à mon jugement d'ensemble sur le foot d'aujourd'hui, sur le foot européen, et une fois de plus, il y a le foot de demain et le foot d'hier. Le foot de demain, bah, c'est Liverpool, c'est toutes les équipes qu'on a citées. Et le foot d'hier, c'est Villarreal. Villarreal n'a...
Sauf que peut-être... Ouais.
Ils n'ont pas de plan B, Villarreal.
Non.
Une fois qu'ils ont défendu... Mais peut-être, Chérif, ouais, aussi que des entraîneurs comme Klopp, comme Guardiola, comme d'autres peuvent pratiquer le football de demain parce qu'ils ont des effectifs au-delà de la normale.
C'est
alors
que effectifs...
Unai Emery, ouais, il n'a pas vraiment de star. Il fait ce qu'il peut.
Mais quand je parle de football de demain, c'est pas simplement les effectifs et puis la capacité
physique.
Mais
est-ce que Klopp pourrait avoir ce genre de jeu avec une équipe comme Villarreal?
Oui, parce qu'il l'a fait avec Dortmund au début des années 2010. Mais par exemple, je cite aussi les autres équipes comme l'Ajax, l'Atalanta, ou alors même le RB Leipzig. Pour moi, c'est le football de demain.
Oui,
alors,
même Hoffenheim, il y a quelques années, c'était un peu ça aussi, avec des joueurs moins connus.
S'ils n'ont pas les joueurs... Ils proposent des solutions, ils ont plusieurs options dans leur jeu.
Alternatives.
Voilà, c'est ça. Reprenons l'Ajax. Bon, ils ont été éliminés par le Benfica, mais ils ont fait du jeu à l'aller au retour. Et Leipzig a inquiété Paris à l'aller au retour cette saison.
Parce que c'est les entraîneurs de demain, Annie.
Voilà, c'est ça.
Oui, mais je connais les explications et c'est pour ça que je.
Moi, l'Atalanta, je continue de suivre l'Atalanta. Alors, ils ont perdu des joueurs, c'est moins bon qu'avant parce que, bon, évidemment, ils ont un effectif réduit. Oui. Mais les idées, je les vois. Ou alors, même à Lens. Mais Lens, évidemment, ils n'ont pas l'effectif. Même s'ils jouaient la Ligue des Champions, ils se feraient exploser. Mais quand je vois Lens, je vois les idées. Mm-hmm. Je vois les options de jeu aussi.
C'est une alors critique d'Emery en creux. Hein.
Oui, bien sûr.
Unai Emery est resté...
C'est pour ça que j'ai commencé...
lui aussi sur son schéma.
C'est pour ça que j'ai commencé par dire que c'est le septième de la Liga. Mm-hmm. La Liga qui est en perte de vitesse. Et bon, alors évidemment, il y a le Real Madrid qui fait illusion. Mais il n'y a que le Real. Le Barça n'est plus là, Valence n'est plus là, Villarreal n'est plus là, FC Séville n'est plus là. Mm-hmm. Donc c'est le septième de Liga. Donc faut remettre les choses à leur juste valeur.
Comment vous ont paru quand même ces joueurs de Villarreal sur le plan d'ensemble, mais aussi sur le... Il y en a certains qui sont plutôt connus et attendus. Étienne Capoue qui connaît bien la Première Ligue. On pense aussi à Coquelin qui la connaît aussi. Il y avait Serge Aurier qui connaît bien du côté de Tottenham. David Lortolari.
Oui, on peut ajouter Lo Celso qui a montré deux, trois éclairs intéressants dans une grande zone qu'on pourrait appeler le milieu de terrain, mais où ils ont quand même été souvent un peu noyés, pour rester sur votre métaphore du jour, avec le sous-marin qui a retrouvé la terre ferme.
Le sous-marin noyé.
La difficulté, c'est ce que disait Chérif tout à l'heure, la difficulté c'est que vous êtes acculé, vous êtes poussé à la faute, et le petit ballon dévié qui occasionne le but où le gardien de Villarreal, Rulli, finit par mettre lui-même le ballon dans son but, et au premier regard on se dit... Ah, il a fait une bêtise. Et puis après, au deuxième, troisième ralenti, on se dit, mais non, c'est que le défenseur a été poussé à la faute. C'est que lui, il anticipe pour aller chercher un centre. Finalement, il est obligé de faire un pas en retrait. Les erreurs commises par les joueurs de Villarreal sont forcées par
le talent, le
rouleau de Liverpool. Mm-hmm.
Moi, je pense que ce qui nous a induit en erreur, c'est le match aller Villarreal-Bayern. On a vu un bon Villarreal.
1-0 pour Villarreal.
Voilà, c'est ça. Là, ils se sont beaucoup plus livrés. Et on aurait pu... moi, je pense que...
Ils ont produit du jeu ce soir-là.
Voilà, mais moi, je continue de penser que le Bayern a été suffisant à l'aller ou au retour. Ils n'ont pas été assez sérieux. Ils n'ont pas pris cette équipe au sérieux. Et on voit que c'est une équipe qui a très peu de marge, Villarreal. Simplement, ce qu'ils ont pu faire contre le Bayern à l'aller, ils ne peuvent pas faire... Ils n'ont pas tenté de le faire contre le Liverpool. Et moi, je pense parce qu'ils ne peuvent pas le faire. Après, maintenant, il y a un match retour... Quelle va être la réaction de Liverpool, s'ils sont dans la gestion ou s'ils vont continuer à faire ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire même aller gagner à l'extérieur. On va voir maintenant ce que nous réserve Villarreal, mais je pense qu'ils auraient déjà pu commencer à montrer des choses dès ce soir, ce qu'ils n'ont pas fait.
Mm-hmm. Oui, il y a une très grosse différence, Annie, entre repartir chez soi pour un match retour chez soi en ayant été mené d'un but et en ayant perdu 1-0 que 2-0. À 1-0, on aurait pu imaginer un Emery continuer de faire la défense et d'essayer de grappiller un but pour revenir à hauteur. Là, à 0-2, à un moment donné, ça ne va pas être possible.
Il faut sortir de ses bases.
Ça ne va plus être possible.
Ouais.
Mais pour répondre à la question initiale, Annie, il y a quand même quelques joueurs intéressants. Certains qui sont un peu passés, Paco Alcácer qui avait eu quelques formidables saisons il y a quelques années et maintenant remplaçant, on l'a vu dans les 10 dernières minutes. Danjuma en attaque, intéressant. Chukwueze aussi, mais c'est des joueurs qui ont besoin d'être entourés aussi.
Mais tout ça, c'est pour des options de contre. C'est pas pour des, comment que t'appelles, des options de possession où tu vas, comment que t'appelles, occuper le camp adverse. Danjuma, je l'ai vu, Chukwueze, c'est des joueurs très rapides, c'est des flèches, mais déjà faut les rampes de lancement. Les rampes de lancement, elles ont été neutralisées ce soir parce que le milieu de terrain de Liverpool te cannibalise. Les seuls ballons de profondeur, c'est les dégagements du gardien. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que Lo Celso et Parejo, ils ont pas pu se mettre en condition de lancer les flèches. Mais c'est, en face, c'est Liverpool.
Voilà. Et ben revenons quand même sur ces Reds de Liverpool qui, une fois de plus, ont déroulé leur talent. Le premier but vient de Ederson. Le deuxième vient de Sadio Mané. Salah, Mané, en plus, il y a une passe décisive de l'un vers l'autre. Salah, Mané, c'est toujours les trublions, c'est le talent, c'est la complicité, c'est ce qui mène la machine de guerre des Reds, David.
Oui, Annie, et le problème, si vous voulez, là, c'est qu'on est en demi-finale de Ligue des Champions et que l'adversaire ne permet pas de mesurer et de punir, pour reprendre un terme de Nagelsmann d'il y a quelques semaines qui lui est revenu dans la figure, l'adversaire, parce que là, il y a de la marge, en fait. C'est-à-dire que moi, je me souviens d'une occasion en première période de Mohamed Salah. On se dit, oh là là, c'est un gros raté quand même. Il envoie le ballon au-dessus alors qu'on a l'impression qu'il a presque le temps. Cette action-là, une action comme ça, vous ratez contre l'Inter de Mourinho, vous ratez contre le Barça de Guardiola, vous ratez contre un Real sur un nuage, vous la regrettez toute la saison. Ouais. Et là, il y a de la marge sur un match comme ça. On est en demi-finale de Ligue des Champions et Liverpool a de la marge. Et donc, l'adversaire qui serait à la hauteur et qui pourrait vraiment permettre à Nice de juger si Sadio Mané, Mohamed Salah et quelques autres sont vraiment les top joueurs de la saison du continent et de cette Ligue des Champions, là, on n'a pas pu savoir ce soir, vraiment.
Ouais. Même s'ils ont gardé ce rythme qu'impose toujours Liverpool,
la pression psychologique, elle est là. Qui cassait le moral des équipes qui affrontaient le Barça d'avant? C'est qu'on n'arrivait jamais à attraper le ballon.
Mais oui.
Donc, c'était le tiki-taka, ça rendait fou. En plus, c'est des ballons qui vous passent à 30 cm des pieds. Là, c'est pareil avec Liverpool, sauf qu'il y a une pression permanente, il y a du mouvement. Et Sadio Mané, à la fin, il ne veut pas sortir. Il en a encore.
Il n'est pas le sort de Trent Arnold, Alexander Arnold non plus.
Il en a encore sous la pédale. Ouais. Dans 3 jours, ils remettent ça à Liverpool. Et en plus, c'est le championnat d'Angleterre. Il y a Manchester City à aller chercher. Il y a ce mouvement permanent. Et surtout, dans cette équipe de Liverpool, c'est une équipe qui ne fait pas d'éclat. Donc, quand on les a en face, on ne les voit jamais s'énerver, on ne les voit jamais s'engueuler, on ne les voit jamais trop protester auprès de l'arbitre. Bon, ça, c'est commun. Parce qu'il dégage une force intérieure avant déjà de vous écraser physiquement.
Mais même Jürgen Klopp, sur son banc de touche, dégage cette force.
Il en impose, mais comme Mourinho en imposait avant. Mmh. Mourinho qui est chambré alors qu'il allait chercher le ballon, qui le tendait et tout avec un sourire. Ça aussi, c'est des gestes. Tout l'aspect psychologique qui fait que vous allez craquer.
Alors en plus, Jürgen Klopp, c'est vrai qu'il a, là, on a vu la gestion aussi d'un groupe, même s'ils ne veulent pas sortir, David, c'est on fait quand même rentrer Naby Keïta, fait rentrer Divock Origi, on fait rentrer des gens qui sont extrêmement importants dans l'effectif, même s'ils ne jouent pas tout un match.
Il y a plusieurs aspects qui sont très classiques, mais qu'il faut avoir à l'esprit, c'est-à-dire plus vous avez un groupe élargi, plus il faut gérer la concurrence. Ça veut dire que, alors évidemment, un joueur ne va pas se contenter de 10 minutes en fin de match. Origi, effectivement, a remplacé Luis Diaz à la 81e. Alexander Arnold a été remplacé par Gomez à la même minute. Et ça va dans le sens de ce que disait Sheriff, c'est-à-dire que le jeune Alexander Arnold, lui aussi, on l'a vu faire la moue et sortir lentement parce qu'il n'imaginait pas sortir.
Alors qu'il a fait 50 allers-retours.
Mais il y a la gestion de la concurrence. Et puis, évidemment, que Jürgen Klopp a suffisamment de matière, de management aussi dans son staff pour savoir, pour avoir une vision un petit peu, si je puis dire, chirurgicale, informatisée du truc. C'est-à-dire que s'il peut reposer un joueur 15 minutes, le faire souffler pour le match qui vient, ça peut être le championnat, ça peut être le match retour qui sera quand même mardi, dans 6 jours, il va le faire. Donc, bien sûr, tout ça n'est pas laissé au hasard.
Justement, alors, s'il y a une gestion du groupe, c'est parce qu'aussi, il y a des enjeux énormes encore pour cette équipe. Jamais elle n'a eu la possibilité et elle n'a remporté 4 titres sur une même saison. Bon, pour l'instant, ils en ont remporté un, c'était la FA Cup. Il leur reste encore 3 compétitions énormes, 7 Ligues des Champions, et ils sont à 90 minutes d'une finale au Stade de France. Et puis, il y a aussi la Coupe de la Ligue et il y a évidemment le championnat d'Angleterre. Et ça, c'est une énorme gestion à faire. Il y a un point entre eux et Manchester City, qu'on a vu hier remporter son match aussi.
Ça, c'est du dopage.
Moral.
Ouais, c'est du dopage légal, c'est de l'endorphine. C'est évidemment, chaque victoire appelle d'autres victoires. On efface la fatigue et il y a des objectifs tellement élevés. Mais là, de toute façon, ils sont, comment dire, ils sont en pilotage automatique. La fatigue, ils ne la ressentent plus. Ils jouent pareil à domicile comme à l'extérieur, en Ligue des Champions comme en Coupe d'Angleterre, comme en championnat. C'est une équipe. C'est malheureusement, là par contre je vous rejoins, c'est vrai que quand on a la chance d'avoir de tels effectifs qu'on peut garder sur des années et des années,
oui,
on peut installer,
voilà, est très importante,
on peut, voilà, on peut installer, alors c'est pire qu'un état d'esprit, c'est presque une mystique que très peu d'équipes peuvent mettre en place. Là, ça existe à Manchester City, c'est en train d'arriver à Chelsea s'ils gardent tous leurs joueurs. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu la fin pour le Real Madrid, mais c'est pouvoir avoir, avec un effectif de qualité, pouvoir le garder sur des saisons et des saisons, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on retrouve ces grandes équipes en demi-finale de Ligue des Champions.
Oui, mais si on doit trouver un grain de sable dans la belle machine ou un défi qui pourrait peut-être dépasser cette belle et bien armée équipe de Liverpool, c'est justement le défi de vouloir tout gagner. Parce qu'il y a des équipes, je le répète, j'insiste, moins bien armées, certes, mais qui dans un passé malgré tout récent, se sont cassés les dents sur les 2-3 dernières marches de la saison. Ouais. Il va quand même falloir aller chercher l'adversaire en championnat, Annie, qui est à la même hauteur et qui ne va pas se laisser faire. Et en Ligue des Champions, vous allez devoir jouer une finale sur un match contre un Real,
Pour l'instant, on voit qu'ils tiennent le rythme. Ouais. Hein, ils seront en finale de la Coupe d'Angleterre contre Chelsea le 14 mai, alors qu'ils les ont battus récemment.
Ils sont déjà en finale
dans la FA Cup.
Ils sont à un match de la finale de Ligue des Champions.
Ah, oui.
Ils sont déjà en finale avec Manchester City en championnat. Ils sont dans toutes les finales.
Ils tiennent ce rythme, en tout cas. C'est ça qui est extraordinaire. En tout cas, on va écouter l'entraîneur justement des Reds, Jürgen Klopp, évoquer au micro de nos confrères de Canal+, le match retour en perspective.
Eux, ils sont très bons, ils sont très organisés, ils ont fait un bon match. Ce sera un match différent en retour. Attention, Moreno sera de retour.
Évidemment, lui, il est déjà dans le calcul et il sait déjà qui sera là au match retour.
Ah mais là, Chérif parlait de pilotage automatique. Là, tout était préparé dès que le coup de sifflet final était donné. C'est-à-dire qu'il a trouvé son excuse pour garder ses joueurs un tout petit peu tendus en disant « Ah, l'adversaire, chez Villarreal, il y a un joueur qui va revenir qui était absent pour ce match-là.
» J'ai très, très peur.
Oui, rien n'est fait, etc. Oh là là, alors là, tout ça a été cousu de fil blanc. Non, il n'y avait pas besoin.
Il y a le respect de l'adversaire.
Oui. Ça, c'est vrai.
Oui, et ça, c'est très intéressant et très important.
Il y a quand même plus d'eux au tableau d'affichage.
En tout cas, saluons cet article de As qui avait écrit aujourd'hui, parce que je trouve que la formule était belle, même si malheureusement, elle se limite sans doute à cet avant-match. Vous ne naviguerez jamais seul. C'est ce qu'on dit dans la première partie de Radio Foot International. Ils ont remporté en fait déjà ce qu'il fallait, même sans coupe. Villarreal se propulser en demi-finale d'une Ligue des Champions.
Ils ont atteint leur objectif.
Oui, c'est énorme.
Ce qu'il faut garder à l'esprit, peut-être, sur ce parcours de Villarreal qui n'est pas encore tout à fait terminé, quand même, disons-le. Il faut garder à l'esprit que c'est une espèce de rebond, de tremplin par rapport à leur victoire de Coupe d'Europe de la saison passée.
Exact.
Et c'est pas la première fois que ça arrive.
Exact. Oui. Et ça, Unai Emery, c'est le faire.
C'est l'équivalent d'une victoire en Europa League, en fait, la demi-finale. S'ils ne sont pas trop ridicules au retour, ça sera un peu l'équivalent.
Alors, il y avait la Ligue des Champions et puis il y a la Ligue Europa Conférence. C'est pas la Ligue Europa, c'est l'autre encore, la troisième. La toute petite, surtout la toute nouvelle compétition européenne que disputent encore les Marseillais.
C'est le retour des Marseillais. L'OM est en demi. La Coupe d'Europe, sa magie, les souvenirs de Boli. Le club olympien tisse sa toile, toujours un peu plus près des étoiles. Droit au but, la magie opère pour faire vibrer la France entière. Il est temps d'aller pousser, on a des rêves à soulever. Demi-volée, à nouveau, on tutoie les sommets. Car nous sommes les Marseillais et nous allons gagner.
Alors celui qui dit « nous sommes les Marseillais », c'est un vrai Marseillais. Il s'appelle Soprano, il fait chanter les foules et c'est un passionné de l'Olympique de Marseille, on le sait. Ça, c'est la bande-annonce de ce match qui aura donc lieu demain. On connaît les Marseillais, à jamais les premiers pour ce qui est de la Ligue des Champions. Les voilà cette fois en demi-finale de cette Ligue Europa Conférence. À jamais les premiers, c'est sûr. L'équipe est déjà à Rotterdam, bien sûr, pour jouer demain face à Feyenoord et espérer disputer une sixième finale européenne. L'OM, encouragé par 2000 de ses supporters, et c'est important parce que c'est la première fois qu'ils font le voyage pour assister à un match de cette Ligue Conférence en dehors du Vélodrome. Alors, ils voyageront en bus demain matin et ils seront parqués. Alors, justement, je voulais vous interroger sur ça.
C'est chaud.
Voilà, Chérif, parce que on espère que les choses se passeront bien parce que l'ambiance est assez bouillante du côté de ce stade de Rotterdam. Ouais. Les supporters ont un peu les reporters pas encore mauvaise réputation.
Je suis assez surpris parce que pour moi à l'UEFA c'est vraiment le match à très haut risque.
Ah oui oui.
En Grèce ça aurait pu l'être aussi.
Oui, non, mais c'était
chaud à chaque fois, à la S-Rom aussi.
Non, mais ces matchs-là, comment dire les. À Rome. Les supporters de Rotterdam, c'est pas des tendres. Et ça va être un match chaud bouillant. En plus, les deux équipes y croient, veulent vraiment lancer toute leur force dans la bataille. C'est un vrai affrontement. Et les supporters marseillais, j'espère qu'ils seront bien encadrés et bien disciplinés. Oui. Parce que, en plus.
Eux aussi, ils ont eu des amendes et tout ça.
Alors, grande ville, je connais un peu les abords du stade. Faudra bien les encadrer. Hein, oui. Parce que c'est vraiment pas des anges. Hein.
Oui.
Il y a des déplacements de supporters entre l'Ajax et Feyenoord. Ils sont interdits depuis des années.
Oui.
Exactement. Là, ils ont, pour cette seule saison, 10 amendes pour un total de 500 000 euros. Alors, c'est pas ultra méchant, c'est fumigène et projectile.
Mais
c'est gênant pour l'image. Quoi.
Non, puis il y a aussi les déplacements de supporters. Comment ils sont.
Les projectiles, Marseille, ça connaît.
Tous les problèmes qu'ils ont eu dans les centres-villes, je crois qu'à Metz,
depuis les années 70, ils ont un peu mauvaise réputation.
Récemment, dans les années 2010, une virée à Rome, une virée à Metz, il me semble.
Bon, alors, face à l'Ajax, des fois, ils se lâchent, c'est un peu pire, avec des cris racistes ou antisémites. Mais
je ne sais pas si c'est une bonne idée.
On verra, ça sera le test de l'UEFA demain. En tout cas, l'adversaire des Marseillais dispute donc le championnat hollandais, comme on aurait dit avant, mais le championnat des Pays-Bas. Ils sont troisième.
Troisième du championnat, oui.
Troisième du championnat. Racontez-nous ce club de Feyenoord de Rotterdam.
Alors, c'est une équipe qu'on oppose toujours à Amsterdam.
Voilà,
alors,
on connaît évidemment.
Pour parler très vite, Amsterdam, c'est la capitale. Enfin, la capitale, c'est la ville bourgeoise esthétique au niveau du football. Rotterdam, c'est la ville ouvrière et plutôt rentre-dedans. Qui a un jeu assez frustre. C'est une ville portuaire.
Le PSV serait un peu entre les deux, shérif, non ?
Et le PSV
qui a été éliminé au tour précédent, Annie.
PSV Eindhoven.
Par Leicester.
L'Ajax, c'est les bourgeois et l'esthétisme du jeu. Rotterdam, c'est le jeu frustre des prolos de Rotterdam, les dockers. Et le PSV, c'est les paysans. C'est-à-dire, pareil, c'est du jeu frustre, mais du bourron, les bourrins, les paysans.
Van Bommel, ça colle.
Voilà, c'est ça, Van Bommel, c'est ça, c'est exactement ça. Donc le Feyenoord, c'est alors une grosse fierté ouvrière, grande fierté aussi parce que c'est le premier club hollandais qui a gagné une Coupe d'Europe en 70, avant l'Ajax, et donc ça les a toujours permis d'avoir un petit air de supériorité. Ils pratiquent pas le beau jeu. C'est pas leur truc, c'est vraiment ville ouvrière, c'est vraiment le club des dockers.
Par contre,
c'est un jeu direct Et cette saison, donc, ils sont troisième, ils n'ont aucune chance évidemment de gagner le championnat. Ils commencent à revenir un peu parce qu'ils ont été largués par rapport au PSV et par rapport à l'Ajax. Et là, le profil, c'est en gros, c'est des joueurs d'une certaine maturité, 29-30 ans, et des très jeunes joueurs parce que ça reste un club assez formateur.
Alors justement, l'entraîneur de Feyenoord est un admirateur, et ça c'est amusant, de l'entraîneur argentin de Marseille, Jorge Sampaoli, même si, à vous écouter, ça ne doit pas trop se voir dans le style de jeu de l'équipe.
Si, c'est un jeu direct et offensif. Là, par contre, c'est ça. C'est pas le beau jeu de l'Ajax, mais par contre, c'est un jeu direct et offensif.
Et Arne Slot, c'est son nom, imagine ce que pourrait être le match demain soir.
Both teams like to press. It's not easy to press
Les deux équipes aiment presser. Ça n'est pas facile de presser l'OM parce que l'équipe utilise aussi beaucoup son gardien de but. En général, vous devez faire le pressing sur 10 joueurs tout au plus. Demain, il faudra le faire sur 11 joueurs pour être efficace. C'est souvent la qualité individuelle des joueurs qui fait la différence. On demande des options tactiques aux entraîneurs, mais c'est la qualité des joueurs qui fera la décision. On verra bien à court terme quels sont les joueurs qui sortiront du lot et quels sont ceux qui seront en forme. Nous verrons demain qui aura le plus la possession, et ça n'est pas facile de l'avoir avec Marseille, mais il n'est pas facile non plus de nous prendre le ballon. La qualité des joueurs et leur niveau d'exécution feront la différence, mais pas le score. Le score dépendra probablement des coups de pied arrêtés et des décisions de l'arbitre.
L'enjeu, c'est la possession. On en parlait avant Manchester City, Real Madrid hier. Est-ce que là aussi, c'est un...
Ces deux équipes, en effet, ces deux équipes qui aiment bien avoir la possession. J'ai vu un peu l'entraînement de Feyenoord, donc on joue beaucoup jeu à terre avec des redoublements. Mm-hmm. Et ce qui va faire la différence, à mon avis, c'est les individualités. A priori, il y a plus d'individualités du côté marseillais. Mais bon, sur ce qu'on a vu, Marseille n'a jamais été souverain en Ligue Europa Conférence. Donc... C'est pas si net que ça.
Ils s'en fait peur parfois même.
Voilà. Mm-hmm. Attention, il y a un client en face, mais qui est pas extraordinaire non plus. Tout à l'heure, j'ai parlé de Villarreal, 7e de Liga. Là, c'est le 3e des Redivisie. En principe, c'est à la portée de Marseille.
Théoriquement.
Mais
David Lortolari sur ce Feyenoord.
C'est-à-dire, sur les 8 équipes qui restent, 4 de ce côté-là, 4 sur la Ligue Europa aussi, il y a quand même deux profils qui se dessinent. Soit des équipes un peu... De grosse robustesse, très dynamique, l'Eintracht Francfort, les Glasgow Rangers, peut-être ce Feyenoord aussi, et des équipes qui voudraient être mobiles, techniques à la fois, qui pourraient être peut-être West Ham, qui pourraient être peut-être cet OM, peut-être Leicester un peu aussi, peut-être le RB Leipzig. Et là, il va falloir se situer entre une équipe qui va vouloir avoir la possession chez elle, qui va être le Feyenoord évidemment, et Marseille, c'est-à-dire avoir suffisamment le côté athlétique. On sait que l'OM, il y a des joueurs qui ont disputé beaucoup de matchs cette saison.
Oui, bien sûr.
Il va falloir être mobile, dynamique et avoir la technique aussi. Donc c'est quand même une mission qui correspond à ce que sait faire l'OM de Sampaoli, Annie. Mais il va falloir le réussir, ça.
L'OM qui tient, on parlait tout à l'heure par exemple de Liverpool qui est lancé dans cette course, notamment au titre de Première Ligue.
Ouais.
L'OM a un petit peu assuré ces derniers jours la deuxième place du championnat de France, même si ce n'est pas gagné évidemment jusqu'à la fin. Il reste 4 matchs. Hein.
Il y a un petit matelas. Le problème pour Marseille, c'est qu'il y a encore un dernier petit coup de collier à donner en championnat. Bon, ouais. C'est bien parti. A priori, ils ont fait le trou. Ils ont 6 points d'avance sur le 3e en championnat. Par contre, il y a peut-être encore un dernier coup de collier. Alors que pour Feyenoord, non, la saison, elle est finie. Ils finiront 3e, au pire 4e.
C'est pour ça que je parle de la dimension, peut-être la dimension un peu physique. C'est un peu éculé comme argument, mais ça peut être important. La fraîcheur pour l'OM.
C'est pour ça, c'est ce que je dis. Marseille n'est pas souverain.
Marseille n'est pas souverain, mais en tout cas, Marseille, on l'entend depuis ces derniers jours, il joue chaque match, même de championnat, comme si c'était justement un entraînement pour en pensant à cette compétition européenne. Écoutons Dimitri Payet, il l'a confié au micro de Canal+ ces dernières heures.
C'est quelque chose d'exceptionnel de vivre une épopée européenne dans ce club-là. Je pense qu'on a eu un bon entraînement avec ce déplacement en Grèce, avec un public très très chaud. Voilà, c'est sûr, on s'attend à un match très difficile chez eux, qui voudront gagner. Voilà, après, à nous de prendre ce match comme on a pris les autres, avec l'idée de mettre notre jeu en place et d'essayer de les mettre en difficulté le plus possible. Si j'ai la chance de pouvoir aller s'offrir une finale de Coupe d'Europe, on fera tout ce qu'il faut pour. Et l'objectif, c'est ça, c'est d'aller, d'avoir deux matchs pour aller s'offrir cette finale.
Deux matchs, donc il pense déjà évidemment à la finale, mais Dimitri Payet, il a peut-être un avantage, David Lortolari, c'est qu'il a vécu l'aventure de 2018 avec cette aventure en Ligue Europa et cette finale face à l'Atlético Madrid, perdue malheureusement, mais en tout cas c'était une sacrée aventure.
Oui,
avec Rudy Garcia comme entraîneur.
Exact, exact. Et le club, plus largement, dans sa culture, a connu des finales aussi. Alors, on ne va pas remonter à 1991 et Barry, peut-être, cette finale triste pour l'OM.
Mais il y a une expérience.
Oui, il y a une expérience.
Qui se transmet quand même.
Il y en a eu d'autres aussi depuis. Ça peut être ce parfum qui peut les attirer vers la finale, sachant que derrière, alors on aura le temps, vous aurez le temps de revenir dans les émissions futures sur ça, mais il y a encore des clients de calibre hein, de l'autre côté. Leicester, c'est pas évident, La Roma avec le mou, c'est bon courage pour l'OM. Mais effectivement, vous allez avoir besoin, c'est ce que disait Chérif sur la technique et peut-être la légère supériorité pour l'OM. Vous allez avoir besoin d'un Payet illuminé, vous allez avoir besoin de ces étincelles-là pour faire la différence.
Alors on les a reposés, Gerson, Payet et Lirola dimanche, donc une mi-temps, ils sont rentrés qu'en deuxième mi-temps. Et le truc, ce que relevait Payet, c'est un peu, il fait ressurgir un peu la mystique européenne de l'OM, parce qu'il y a une mystique européenne à l'OM. Mais le problème, c'est que le Feyenoord aussi a une mystique de l'Europe, même si évidemment, ça remonte à des années. Enfin, pas tant que ça. Il y a 20 ans, ils ont quand même gagné une Coupe de l'UEFA. Il ne faudrait peut-être pas l'oublier. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a deux équipes qui y croient, qui peuvent aller au bout.
Bien sûr.
Et il y a deux publics qui croient aussi que leur équipe peut aller au bout. Et là,
il n'y en aura qu'une.
Voilà, il n'y en aura qu'une.
En tout cas, à qui vous... Laquelle vous voyez quand même la plus forte, David ?
Pour moi,
logiquement.
Pour moi, sachant qu'on aura du mal à faire la différence définitivement demain, le retour au Vélodrome va peser lourd quand même cette fois-ci. Alors on oublie la règle du but à l'extérieur, mais ça peut peut-être être aussi un avantage pour l'OM. Chérif parlait à juste titre des publics des deux clubs. Revenir
ça
chez...
Peut aider.
Ben, le match
c'est
retour
50
chez...
50 000 hein, demain soir, attention.
Attention. Mais effectivement, demain, il y a l'avantage pour le Feyenoord et puis au retour pour l'OM. Ça compte aussi à ce stade-là parce que justement, pour avoir la mystique, vous avez besoin aussi de votre public derrière vous. Difficile de répondre à la question, Annie, en tout cas pour ma part.
Et si l'OM n'avait pas été aussi tortueux en Europa League, j'aurais mis ma main à couper pour une qualification de l'OM. Pour moi, ils sont supérieurs parce qu'ils ont des individualités, c'est un poil plus technique. Mais quand je les vois gagner 2-1, 1-0, 3-1, enfin, toujours se faire revenir, remonter un peu, je ne suis pas rassuré.
Juste une petite question, David Lortolari. On aura la VAR à partir des demi-finales dans cette compétition qui n'a pas eu la VAR jusqu'à présent. Elle sera là. Est-ce que c'est de nature à changer quelque chose ?
Ah bah c'est sûr, parce que là, et dans le mauvais sens, parce que là, les derniers, tout championnat confondu, les derniers épisodes VAR sont au mieux absurdes, au pire injustes. Enfin, ça peut changer quelque chose. Et...
La loterie des mains dans la surface qui donne un pénalty.
On le guettait presque aussi ce soir, Annie, par rapport au match de Ligue des Champions. Oui, ça peut changer quelque chose.
Ça serait presque dans le mauvais sens.
Ça s'est passé hier soir. La main, il y a une main, mais bon.
Il y a une main assez nette de Aymeric Laporte quand même. Hein.
Non, mais il faut balancer dans la boîte maintenant, il ne faut pas hésiter.
Exactement. On continue dans Radio Foot International avec retour sur la polémique du moment, en tout cas sur le continent africain, autour des propos de Jamel Belmadi. On en parle avec Dominique Sévrac, Étienne Moati et Salim Bongali qui étaient présents dans la première édition. La Fédération de Gambie à l'initiative. Cet après-midi, les dirigeants du football gambien sont passés donc à l'offensive et ont déposé plainte contre le sélectionneur algérien, dénonçant les propos tenus par Jamel Belmadi dimanche dernier. Alors c'est cet entretien vidéo mis en ligne par la Fédération algérienne, la FAF, et qui ne cesse d'être commenté et dénoncé. Il faut dire que le sélectionneur algérien Jamel Belmadi a quand même aligné des phrases assez choquantes à propos de l'arbitrage, notamment Il y a deux choses quand il dit « nous ne laisserons jamais deux ou trois personnes conspirer contre notre pays », ce qui peut-être sous-entend que l'arbitre aurait été acheté ou que ça serait un complot. Plus jamais un arbitre ne mettra mal notre pays. Et puis surtout, il dit « je n'ai pas aimé voir l'arbitre le lendemain confortablement assis dans nos salons à l'aéroport, boire un café et manger un millefeuille ». Alors, une photo de café à côté d'un millefeuille, maintenant, ça fait sur les réseaux sociaux grand. On en voit de nombreux, mais surtout, il dit « je lui ai vidé mon sac quand je l'ai recroisé en Turquie, je lui ai dit qu'il était encore ». Et il avait dit cette phrase « je ne demande pas qu'on le tue, mais… » Et d'ailleurs, la Fédération gambienne dit « si… » il lui arrivait quelque chose, on en rendrait responsable Jamel Belmadi, parce qu'on a l'impression qu'il l'a montré du doigt. Est-ce que cette plainte de la part de la Fédération gambienne, Étienne Moati, alors c'est contre les propos, contre la FAF, mais aussi auprès de la CAF et de la FIFA, hein, de la Confédération africaine, de prendre des sanctions disciplinaires contre Belmadi. Est-ce que vous pensez, avec quand même disons les propos qui sont chaque fois relayés, commentés et ce mécontentement ou cet état de choc amplifié, est-ce que vous pensez que ça peut donner quelque chose du point de vue sanction?
Oui, mais on serait plutôt choqué, étonné qu'il n'y ait pas de sanction contre le sélectionneur algérien. Les accusations qu'il porte, elles sont extrêmement graves sur le fond, la forme est ultra agressive.
Donc, un mois après le match, encore, on se dit qu'il sera en sortie de terrain.
C'est une bonne observation, parce que c'est, donc, de mon point de vue, évidemment, qui peut et qui doit être sanctionné. On l'est en Ligue 1 quand on tient des propos bien moins graves que ceux-là. Et au niveau international, ça doit également être la même chose. Et puis, comme vous le dites, il y a ce qui a été dit juste après le match. Bon, sous le coup de l'émotion, on peut dire des choses. Là, il rempile comme sélectionneur et le discours qu'il livre, c'est celui-là, c'est-à-dire un discours sur le passé, et au lieu de se tourner vers l'avenir et d'essayer d'oublier cette élimination et des éventuelles erreurs d'arbitrage.
Mais vous y croyez à une sanction, Étienne?
Oui, j'y crois, parce que ça prend des proportions importantes aujourd'hui, et la FIFA donc, ne peut pas rester donc, complètement inactive, ou la CAF donc, face à ce qui a été dit.
Même après, si c'était un match FIFA.
Oui, non, mais donc il peut être tout à fait sanctionné et être suspendu donc pour plusieurs matchs.
Je précise juste, si c'est la Gambie qui s'en mêle, c'est parce que l'arbitre incriminé évidemment par Jamel Belmadi, c'est M. Gassama, qui est, dit-on, un des meilleurs sifflets africains et qu'on voit aux Coupes du Monde et qu'on a vu à la dernière CAN.
Juste, je vais appuyer également le propos et juste rajouter une chose, c'est que la vidéo a été quand même publiée sur le site de la Fédération algérienne. Sous-entendu, la Fédération algérienne, qui a donc vu la vidéo, qui a vu le contenu des vidéos, qui a vu le contenu des propos, appuie ses propos aussi. Alors, le contenu de la plainte, ou en tout cas, la plainte, c'est envers Jamel Belmadi. Mm-hmm. Hein, on avait dit, pas envers la Fédération algérienne.
Si aussi.
Ou aussi, mais tant mieux.
Parce justement.
Parce que, voilà, la Fédération algérienne est au moins à minima autant coupable. C'est incroyable d'appuyer. Alors, je veux bien qu'une fédération appuie son sélectionneur dans diverses situations, mais là, précisément, c'est absolument scandaleux. Et espérons qu'il y ait des sanctions, bien sûr.
Et alors, pour aller... Annie, elle participe d'une pression pour que Jamel Belmadi fasse ses excuses, déjà.
Sans
parce
doute.
Qu'il faut qu'il rentre au pénal. C'est pas possible. C'était
à
dimanche.
À titre d'exemple.
C'était dimanche.
C'était dimanche.
On est mercredi. Ça fait déjà 4 jours qu'on en parle. Il faut absolument le plus vite possible pour son image, pour son bien-être à lui, au-delà des menaces et des propos complotistes, populistes qu'il tient à l'égard des arbitres. Il faut absolument que pour lui, Jamel Belmadi, qui est un sélectionneur qui a gagné une CAN, qui est quelqu'un de
respectable. Oui, qui nous avait impressionné,
voilà,
en plus.
Quelqu'un
ancien joueur.
Voilà, il faut vraiment pour lui, parce que sinon on va garder ça et ça va pas être bon. Donc, et puis pour que la pression retombe, il faut que lui prenne ses excuses et puis après qu'il accepte la procédure disciplinaire qu'il va subir, parce que effectivement on voit pas comment il pourrait échapper à une sanction.
Mais alors Dominique, et je dis ça à Salim aussi, ce qui est incroyable, c'est que le président, alors en plus bon, on sait que c'est compliqué à la Fédération algérienne en ce moment, président démissionnaire qui finalement a décidé de rester, Sharaf Eddine Amara, il a répondu hier, il a fait une conférence de presse pour parler de ses propos, et il dit « Les déclarations de Jamel Belmadi ont été mal comprises. Le coach n'a jamais abordé le sujet du Cameroun, dit-il, alors que Samuel Eto'o, le président de la FECAFOOT, a lui aussi dénoncé dans dans une note publique. Bon, alors pour l'instant, ils ont dit qu'ils se réservaient le droit d'aller plus loin, mais en tout cas, qu'ils disaient c'est pas possible les accusations qu'on subit. Et donc, lui, il dit non, mais Eto'o est un ami à moi, on ne doute pas de l'honnêteté du Cameroun et tout. Mais,
en général, c'est de la mauvaise communication quand on commence à dire que c'est les autres qui ont mal compris. Et pas
souvent
celui
les journalistes qui ont sorti les phrases de leur contexte.
Qui s'est exprimé, qui s'est mal exprimé. Tout le monde a bien vu la vidéo, ceux qui ont eu envie de se farcir, entre guillemets, les 50 minutes.
Ils l'ont vu.
Et c'est bien. Et moi, j'ai juste regardé les extraits incriminés. Et donc, voilà, en fait, c'est pas la peine de faire croire que personne n'a compris. On est grand, mais on n'est pas trop bête. On a compris ce qu'il a dit. Et on espère que ces mots ont dépassé sa pensée. Et donc, maintenant, il faut qu'il rétropédale et qu'il s'excuse.
La Fédération algérienne se cache derrière le recours qu'elle a elle-même déposé auprès de la FIFA, qu'on attendait soi-disant pour le 24 avril, dénonçant l'arbitrage de Gassama.
Oui, c'est un recours qui n'a aucune chance d'aboutir et qui n'a aucun sens. Mais surtout, Belmadi, il devrait se projeter vers l'avenir. Aujourd'hui, donc, c'est un match qui a provoqué l'élimination de l'Algérie. Lui et son équipe, ils en sont les premiers responsables et pas l'arbitrage. Donc, il devrait se tourner vers le futur et démarrer comme ça une nouvelle ère. Alors que ce n'était déjà pas évident pour lui de repartir et d'être conduit dans ses fonctions, c'est plus que maladroit.
Il y a des éliminatoires en ce qui concerne la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu dans 14 mois en Côte d'Ivoire, et l'Algérie, évidemment.
Il aurait pu vider son sac lors d'une interview, éventuellement dans un journal un peu plus confidentiel, si jamais il avait vraiment que ça sur le cœur. Mais le jour de sa reconduction, l'annonce, elle est complètement parasitée par ce double message qui n'est pas bon, encore une fois, qui est nocif pour le football, qui est nocif pour lui. Franchement, c'est incompréhensible.
Radio Foot International, la fin de cette deuxième partie de l'émission du jour. Vous l'entendez, la musique de la Ligue des Champions. C'était donc ce soir, cette deuxième demi-finale aller entre Liverpool, les Reds qui recevaient à Anfield le Villarreal, l'équipe espagnole, l'invité inattendu de cette demi-finale. Invité inattendu, et David Lortolari, malheureusement peut-être pour le sous-marin jaune, il n'y a pas eu de miracle ce soir.
Peut-être que Villarreal a atteint ses limites face à un Liverpool très complet et très impressionnant, et peut-être si le studio est teinté de rouge, c'est pour... non, il est toujours teinté de rouge en fait.
C'est la couleur des RFI.
Non, supériorité de Liverpool, et on peut imaginer qu'elle se produise également au retour. Mmh.
Mais Shérif,
ce qu'il y a de bien pour Emery et pour ce Villarreal, c'est que bon, voilà, ils n'ont plus un narrateur dans le championnat. Je répète, ils sont septièmes. Qu'ils donnent tout au match retour.
Ah oui,
déjà, leur public, ils ont mis les prix des places très très peu chers. Donc ça va être une communion. Ils n'ont plus rien à perdre. La stratégie qu'ils ont mis en place ce soir d'attendre, elle n'a pas été payante. Ils sont menés 2-0. Ils n'ont plus rien à perdre. Et comment dire, quitte à mourir, autant mourir debout, dans la joie, avec l'orchestre qui continue à jouer.
Ils savent faire produire du jeu, ils l'ont montré plutôt dans la compétition.
Donc ils ont plus rien à perdre. Et j'aimerais bien voir quand même cette équipe de Liverpool vraiment bousculée. Bon, ils sont bousculés en Première Ligue, mais là en Ligue des Champions, un peu ce qu'a fait Benfica quand ils sont arrivés à Anfield. C'était perdu, perdu, ils ont produit du jeu, ils ont fini par faire 3-3. Et voilà, Villarreal, qui sait, 1-0 à la mi-temps, tout reste possible. Je ne veux pas encore enterrer cette équipe de Villarreal. Voilà, pour la beauté, pour l'honneur, pour le spectacle, pour la fierté.
Mais peut-on imaginer Unai Emery lâcher les chevaux comme ça?
Il n'a plus rien à perdre.
S'il attend les 20 dernières minutes, on va souffrir.
Non, si tu attends à 20 dernières minutes, tu seras déjà mené 3-0. Donc tu auras 5 buts à marquer, pas 2.
Oui, parce qu'à Nice ce soir, il y a quand même eu aussi du côté de Liverpool quelques ratés qui va permettre à Jürgen Klopp de motiver ses joueurs aussi. Hein. Oui.
Des ratés pour ce qui était de la finition.
Oui.
Hein,
j'imagine pas Klopp mettre une équipe A prime ou une équipe B. Je pense que
surtout pas. Surtout pas les 11 d'entrée.
Raison de plus pour aller les bousculer une fois de plus. C'est devant leur public.
En tout cas, tout s'est joué en deuxième mi-temps, puisqu'à la mi-temps, c'était toujours 0-0. Villarreal avait résisté, planté devant sa défense et devant ses buts. Mais finalement, Ederson et surtout Sadio Mané ont inscrit les deux buts en 2 minutes. Ils ont transformé la rencontre.
Que Villarreal se motive, tout comme le Real, pour une finale 100% espagnole. Parce que ce n'était pas eux qui sont prévus sur la finale. Donc, à eux de faire déjouer les pronostics.
Et c'est la fin de cette édition de Radio Foot International. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci, messieurs, d'avoir veillé avec nous ici à RFI. On vous dit bonsoir et on vous dit surtout à demain. Merci à tous.